France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Dans l'histoire du projet européen depuis 1958, c'est une banalité qui tient lieu d'évidence. L'unification de notre continent n'a progressé qu'au travers des crises. Celle que nous traversons est la première du genre, puisque la pandémie qui a frappé les 27 États membres à des degrés divers affaiblit comme jamais nos économies et menace notre modèle social. Pire, pendant 4 mois, on a vu l'Europe se déliter, chacun se repliant sur ses propres urgences, ses propres souffrances, fermant ses frontières et son marché, rivalisant avec ses voisins pour trouver des masques et des respirateurs. Il n'y eut aucune coordination entre les États membres, pas de solidarité non plus, ou si peu, les Italiens nous le reprochent amèrement. Face aux risques sanitaires, face à la récession, face aux ambitions de la Chine, qui a réussi à faire du coronavirus un outil de propagande et de conquête, la leçon est si sévère, l'impuissance au niveau national tellement évidente, que l'Union européenne n'a d'autre choix que de tenter de rebondir. Le virage sur l'aile spectaculaire opéré par Madame Merkel sur l'insistance d'Emmanuel Macron ouvre la voie d'une relance commune et d'une mutualisation des dettes qui feront l'objet d'âpres discussions la semaine prochaine au Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Rien n'est gagné et les prévisions économiques sont sombres. Mais la voie est tracée. La Commission affiche une détermination nouvelle pour mettre sur pied une Europe de la santé et mieux protéger nos industries des appétits extérieurs. Donald Trump accélère le retrait américain, Xi Jinping entend combler le vide. L'Europe va-t-elle trouver le ressort et la détermination nécessaire pour faire front ou continuera-t-elle de creuser ses fractures? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Enrico Letta. Bonjour. Vous êtes le doyen de l'École des affaires internationales de Sciences Po, président de l'Institut Jacques Delors, et vous êtes l'ancien président du Conseil italien. Avec nous, et je l'en remercie bien sûr, Daniela Schwarzer, vous dirigez l'Institut allemand de politique étrangère. Avec nous aussi, Jean Pisani-Ferry, économiste, professeur à Sciences Po, à la Hertie School de Berlin et à l'Institut universitaire de Florence. Et François Hesbourg, vous êtes François, conseiller spécial du président de la Fondation pour la recherche stratégique. Enrico Letta, je commence avec vous, je crois que vous êtes à Pise. Quelle est l'ambiance?
C'est une ambiance de réouverture lente, avec un peu d'espoir, mais naturellement avec beaucoup de préoccupations pour la situation économique qui a frappé l'Italie, comme les autres pays européens, mais l'Italie peut-être davantage, mais aussi un peu d'espoir parce qu'on espère que le pire est derrière nous.
On sait à quel point la Lombardie en particulier a été meurtrie. Est-ce qu'il faut espérer aujourd'hui, à quelques jours du prochain Conseil des chefs d'État et de gouvernement, qui aura lieu jeudi et vendredi prochain, de façon virtuelle bien sûr, est-ce qu'il faut espérer en un rebond de l'Union européenne?
Je pense que l'Union européenne est un tournant, et ce tournant va être très important. Je ne pense pas que le Conseil européen de la semaine prochaine va être le Conseil décisif. Ça va être une étape d'un process assez long. Moi, je pense que ce qui a été décisif, ça a été le sommet franco-allemand du 19 mai. Je pense que c'est un moment qui représente un tournant de l'histoire européenne, un peu au même niveau de ce que le 26 juillet 2012 avait été le fameux discours de Mario Draghi à Londres quand il avait parlé de « whatever it takes » pour sauver l'euro. Et il avait réussi. Aujourd'hui, on a ce tournant franco-allemand qui a changé le cours de la situation européenne. La France, avec ses alliés, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, le Portugal, et qui ont réussi à convaincre l'Allemagne à prendre en charge une position et une nouvelle ligne beaucoup plus proactive de solidarité, mais aussi de relance économique. Moi, je suis optimiste parce que j'ai vu le désastre du premier mois, le mois de mars, et j'ai vu aussi que ce désastre du mois de mars, en termes de conflictualité interne aux différents pays européens, était aussi causé par le fait que l'Europe n'a pas de compétences sanitaires, donc au tout début c'était très compliqué de trouver des solutions communes. En fait, tous les autres pays qui ont été touchés par cette crise ont tous réagi très mal. Si on regarde à la façon dans laquelle les États-Unis ou le Royaume-Uni ont réagi au tout début, et même aujourd'hui, on se réjouit un peu de comment les Européens ont trouvé les ressources, les énergies pour chercher de réagir. Mais ce qui est très important, c'est que le début de cette crise, donc mars 2020, et tout de suite, aujourd'hui, on a des solutions sur la table. Et ces solutions sont très créatives et très ambitieuses. Alors que la précédente crise de 2008, qui était même moins puissante, moins lourde, moins violente que cette crise-là, il y avait eu la nécessité de 4 ans avant d'arriver à 2012. Donc de 2008 à 2012 avant de trouver les réponses. Et 4 ans dans lesquels l'économie des pays du sud de l'Europe s'était totalement effondrée. Le cas de mon pays, et on paie encore le coût salé de ces erreurs qui avaient été faites. Le populisme vient de là. Alors cette fois-ci, on a après 3 mois des réponses. Naturellement, ces réponses doivent être encore décidées et appliquées dans la réalité. Donc il va falloir encore du temps, mais on est sur la bonne voie. Et la bonne voie est la voie d'une mutualisation des réponses futures. Donc ce choix de faire un bond tous ensemble en tant qu'Europe et faire en sorte que l'argent qui va être obtenu grâce à cette émission d'un bond commun au niveau européen va être donné aux pays membres qui sont plus en besoin, et non pas en termes de hiérarchie de puissance des pays. Et donc, c'est un principe de solidarité. À ça, j'ajoute qu'il y a un pilier social qui vient de naître avec le plan SURE et avec le MES qui est dédié à la santé. Ce sont des aspects techniques, mais en fait, c'est la première fois que l'Europe fait naître un pilier social important. Première fois, ce n'est pas un cas que ça se passe tout de suite après la sortie du Royaume-Uni, qui avait toujours mis le veto contre toute politique sociale européenne. C'est un peu la grande revanche de Jacques Delors, qui avait combattu des grandes batailles contre Margaret Thatcher sur cet aspect-là. Et finalement, les Britanniques sortent et on a un pilier social.
Jean Pisani-Ferry, vous partagez cet optimisme. On a eu quand même l'impression qu'au départ, on a laissé Christine Lagarde et la Banque Centrale Européenne prendre en charge la tâche la plus lourde pour faire redémarrer tout ça. Vous pensez que ça peut redémarrer maintenant, cet élan commun ?
Oui, alors au départ, il y a eu un défaut de solidarité et on peut parler de l'Union européenne, mais on peut parler de chacun de nos pays. Hein. Les hôpitaux français à Nice ou à Marseille n'ont pas accueilli beaucoup d'Italiens, alors même que ça aurait été à la fois un acte de solidarité et un moyen d'apprendre plus pour nos équipes médicales ce que c'était que ce virus qui allait nous atteindre. L'Europe dans son ensemble n'a jamais manqué de lits, n'a jamais manqué de respirateurs. C'était dans certains pays à certains moments. Bon, ensuite, il y a eu le temps où le choc économique est arrivé. L'activité, évidemment, s'est effondrée puisqu'il fallait le faire pour des raisons sanitaires et les États se sont mis à emprunter. Et la question tout de suite a été quelle va être la capacité des États à emprunter alors même que certains sont plus fragiles, que les marchés sont particulièrement nerveux. Il faut se rappeler qu'au mois de mars, on a eu une phase de forte nervosité et d'aversion sur les risques sur les marchés financiers. Et la BCE a répondu le 18 mars. Il y a eu une petite hésitation au début, et puis elle a répondu fortement le 18 mars en lançant son programme d'achat qu'ils appellent le PEP, le programme pandémique. Et ça a eu un effet immédiat. Ça a calmé les choses. Ça a permis que les États fassent leur travail. Puisque sans le soutien de la BCE, les États ne pouvaient pas vraiment faire leur travail. Mais donc 18 mars, on parlait tout à l'heure du 19 mai, pendant 2 mois, sur les réponses des États eux-mêmes, sur les réponses des autres institutions européennes que la BCE, il y a eu relativement peu de choses. Il y a eu cette tentation de laisser les choses à la BCE, et de se dire au fond... La banque centrale va arranger les affaires en fournissant la liquidité, en achetant des titres publics des États de manière à éviter l'augmentation des taux d'intérêt. Il y a eu tout de même pendant cette période l'instauration de dispositifs de crédit par le mécanisme européen de stabilité, mais au fond c'était pas grand-chose. Et puis, il y a eu toute une polémique, notamment en Italie, sur le point de savoir est-ce qu'il y aurait de la conditionnalité, est-ce qu'il y aurait des stigmas associés au fait de tirer sur ces lignes de crédit. Donc, elles ont été mises en place, mais sans, pour l'instant, personne n'a tiré dessus pour le moment. Et puis est venue donc la décision franco-allemande, à la surprise générale, en particulier la position allemande, parce qu'elle brise deux tabous d'un seul coup. Le premier tabou, c'est le tabou de l'endettement commun. Alors c'est pas de la mutualisation des dettes passées, ça c'est très important, c'est de l'émission de dettes communes par le canal des institutions communautaires. Parce que au passage, on pensait
les
juridiquement...
Les dettes futures, donc.
De dette future, c'est-à-dire on finance, on fait ce qu'il faut faire exactement dans ce genre de situation, c'est-à-dire de dépenser aujourd'hui et d'étaler le financement dans le temps, parce qu'évidemment une crise de cette ampleur, elle ne se finance pas par des impôts immédiats. Bon, donc on étale ça dans le temps. On pensait que c'était juridiquement pas possible pour le budget communautaire, on a trouvé une voie qui permet de le faire. Et donc, premier tabou, la dette commune, pour financer une action commune, en partie des actions d'ailleurs qui sont pour une minorité des actions bien publiques, ce qu'on peut appeler des biens publics européens, c'est des actions qui bénéficient à aucun État en particulier, par exemple la recherche médicale, et puis en partie pour distribuer des dons, des programmes qui vont bénéficier en particulier aux pays les plus touchés. Et ça, c'est le deuxième tabou, c'est le tabou des transferts. Si je regarde les documents de travail de la Commission, hein, c'est pas encore des décisions, la négociation est en cours, mais prévoit que sur le programme qui est le gros morceau qu'ils appellent Recovery and Resilience Facility, l'Espagne et l'Italie vont toucher 60...
En français, 60... parce qu'évidemment tout le monde s'irrite de voir qu'on ne parle pratiquement plus français à Bruxelles.
Non, on ne parle plus français à Bruxelles.
Quelle est la traduction, Jean ?
Quelqu'un doit savoir. moi, je ne sais pas.
Pardon, je vous ai interrompu.
Le fond, la facilité de reprise et de résilience, mais c'est pas comme... Enfin, bon, voilà. Donc, 60 milliards pour l'Espagne, 60 milliards pour l'Italie, 20 milliards pour l'Allemagne. Donc, c'est très redistributif. Hein, en faveur de pays qui ont été à la fois les plus touchés
les plus
par cette
frappés.
Crise, auparavant aussi qui souffraient de situations. On soigne un peu les maux de la crise précédente, la crise de la zone euro qui avait laissé des traces fortes en Espagne et en Italie. Donc on brise ces deux tabous à la fois. Et ça, c'est le virage de Mme Merkel qui vient et qui dit, ben voilà, il faut 500 milliards et puis il faut que ce soit redistributif et puis il faut financer ça par la dette commune. Ce qu'on... Pour mettre une petite nuance quand même, même si tout ça est extrêmement positif. D'abord, les négociations vont être difficiles. Ça va être des négociations de marchands de tapis. Chacun fait valoir les raisons pour lesquelles il pourrait bénéficier ou il devrait bénéficier de cette manne. Les Belges, par exemple, font valoir qu'ils sont particulièrement touchés. C'est quand même le pays où la mortalité liée au Covid a été la plus importante. Les Irlandais font valoir qu'il va y avoir le choc du Brexit et qu'ils vont être particulièrement touchés, etc. Donc il y a toute cette négociation usuelle avec le... Comme c'est de la négociation budgétaire, il y a une forme de droit de veto, donc on est obligé d'acheter les votes. Bon, et puis il est clair que tout ça n'arrivera pas vite. Hein, d'après des calculs qu'a fait Bruegel, les trois quarts...
L'Institut Bruegel, oui.
L'Institut Bruegel, les trois quarts programmes vont être disponibles, dépensés à partir de 2023. Donc c'est pas vraiment une action d'urgence. Il y aura très peu d'argent en 2021, un peu plus en 2022, mais ce sera viendra un peu plus tard parce qu'il y a les procédures, etc. Donc on n'a pas l'instrument flexible, si vous voulez, qu'on voudrait avoir, mais qui supposerait aussi d'avoir une autorité capable d'agir aussi vite que le font aujourd'hui les États. On est dans des procédures de négociation qui sont beaucoup plus lentes et donc on n'a pas cette flexibilité aujourd'hui.
Mais l'axe est tracé. Daniela Schwarzer, merci d'être avec nous depuis Berlin. Je rappelle que vous dirigez l'Institut allemand de politique étrangère. Comment expliquez-vous cette sorte de miracle, c'est-à-dire le changement radical de la position de Madame Merkel par rapport à même si on ne les appelle plus les Eurobonds ou les Coronabonds, et s'il faut faire attention aux mots qu'on emploie en franglish, quelle est l'explication de ce revirement, Madame Merkel qui a dit, à l'issue de ce mini-sommet franco-allemand, qui a dit « il faut que nous nous comportions en Européens ».
Tout d'abord, je pense que la perception à Berlin de la crise et sa gravité a beaucoup évolué depuis le mois de mars. Et du coup, au mois de mai, il y a toujours une très grande crainte que cette crise peut non seulement affaiblir l'Europe, mais la déchirer. Et donc, comme l'Allemagne pense toujours, et je suis convaincue que c'est absolument correct, que son bien-être politique et économique surtout dépend entièrement de l'existence du marché unique et aussi de l'euro. Il y avait quand même un sentiment d'alerte quand la gravité notamment de la crise économique était de plus en plus visible. Deuxièmement, et je pense que ça compte beaucoup, c'est non seulement la chancelière et le parti politique des chrétiens démocrates qui gouvernent en Allemagne, mais c'est une coalition qui inclut les sociaux-démocrates depuis longtemps soutiennent des positions sur la gestion de la zone euro et la gestion économique de l'Union européenne, qui sont plus proches des positions françaises que des positions des chrétiens démocrates. Donc parfois, regardé de l'extérieur, j'avais l'impression que peut-être les négociations entre sociaux-démocrates et français auraient été plus simples qu'au sein de la coalition même. Mais bon, je pense que ces deux éléments comptent beaucoup. Et le troisième élément, qui a joué notamment pendant les derniers jours des négociations franco-allemandes, c'était le jugement qu'a rendu la Cour constitutionnelle allemande sur la question de l'implication de la Banque centrale européenne au sein de la zone euro. Et là, on voit très clairement, et Jean Pisani vient de le dire, pendant trop longtemps, on a, d'un point politique, c'était plus facile de laisser la Banque centrale arranger l'affaire. C'était un choix politique depuis l'année 2010, quand il s'agissait de gérer la crise d'endettement public et bancaire. La Banque centrale a pris un rôle de plus en plus important dans la gestion des crises. Et c'était pas un destin, c'était un choix politique de laisser cette institution fédérale prendre ce rôle. Et aujourd'hui, on voit que la Cour constitutionnelle démontre très clairement qu'il y a des limites à ce rôle. Et donc forcément, on doit se poser la question en Allemagne, est-ce que ça devrait avoir des conséquences pour notre réflexion, notamment sur le volet budgétaire au sein de la zone euro? Et voilà, je pense que c'était vraiment ces trois éléments ensemble. Et vraiment un sentiment très très alerté, une très grande inquiétude que cette crise peut être existentielle pour l'Union européenne.
On a vu que Madame Merkel a regagné une immense popularité grâce à la maîtrise de la Covid-19 en Allemagne, et aussi son style de physicienne sobre. Très très factuel. Néanmoins, la politique va reprendre ses droits au Bundestag. On a néanmoins entendu, et c'est quand même très très surprenant, je crois le ministre adjoint à l'économie et aux finances évoquait la possibilité d'une union fiscale. Donc, est-ce que cela veut dire que l'élan pris depuis le 18-19 mai pourrait continuer et que l'Allemagne pourrait continuer à avancer pour parachever la zone euro et renforcer de ce fait l'édifice européen?
À mon avis, c'est Daniela. D'abord nécessaire. Sur le plan économique, c'est d'abord nécessaire. Et sur le plan politique, ça devient de plus en plus possible. Et dans cette situation que vous venez d'évoquer, on voit très bien la vision sociodémocrate des prochaines étapes d'intégration européenne, et je suis personnellement convaincue qu'il y a une vision qui va bien au-delà du fonds de reconstruction économique qui est en négociation maintenant. Ce qui est intéressant, c'est la position que prennent les sociaux-démocrates. Le soutien pour la chancelière et cette position franco-allemande, donc, est très fort. Et donc, il paraît que les arguments qui, encore, il y a 10 ans ou 5 ans, rendaient tout pas vers une union fiscale beaucoup plus compliquée à cause notamment des débats au sein des chrétiens-démocrates. Ça, il y a vraiment un changement de ton et un changement de perception de ce qu'il faut faire. Mais restons d'abord sur le sujet qui est en négociation actuelle, le fonds de reconstruction économique. À mon avis, ça pourra passer en Allemagne, ça aura le soutien du Parlement. Et ça va être très intéressant de voir comment les deux partis politiques se positionnent pour tout ce qui devra venir après. Les sociaux-démocrates le disent régulièrement, notamment le ministre des Finances, Olaf Scholz, qui a dit très clairement, après l'accord franco-allemand, il a dit que, en gros, ce n'était qu'une étape et que la gestion de cette crise rend nécessaire une intégration politique beaucoup plus intense. Et voilà la question, qu'est-ce qu'il peut dire avec cela? C'est notamment la question des impôts européens, c'est la question de la construction d'une capacité budgétaire, non seulement pour la zone euro, mais pour l'Union européenne. Et donc, voilà le début d'un débat qui, à la fin, peut nous mener dans une situation qui serait un grand pas en avant en construisant vraiment des outils, en fait, des instruments budgétaires pour compléter les éléments de gouvernance économique qu'on a en ce moment.
François Hesbourg, on ne vous a pas encore entendu. Je rappelle que vous êtes expert en affaires stratégiques et notamment au sein de la Fondation pour la recherche stratégique à Paris. Madame Merkel a aussi provoqué un mini-séisme en disant un « nein » retentissant à Donald Trump quand ce dernier a évoqué de façon assez fantaisiste la possibilité, c'était il y a 2-3 semaines, de convoquer un G7 aux États-Unis, d'y inviter la Russie, et Madame Merkel a dit « pas question, mais on voit, et ça a été confirmé par l'ambassadeur américain à Berlin, qui s'en va, heureusement, mais ça a été confirmé par lui, Donald Trump veut retirer 30% des forces américaines qui sont stationnées en Allemagne dans le cadre de l'OTAN. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire en clair qu'effectivement, le dispositif militaire américain en Allemagne, qui est le dispositif américain le plus important en Europe, va être réduit d'un quart. C'est substantiel. Ça a un impact naturellement sur la capacité de l'Alliance Atlantique à assurer la défense de l'Europe. C'est peut-être paradoxalement le moins grave. Ça a un impact substantiel sur la flexibilité mondiale des forces armées américaines, parce qu'en fait l'Europe est aussi une plateforme à partir de laquelle les forces américaines peuvent opérer au Moyen-Orient et au-delà, en Asie. Et enfin, bien entendu, ça soulève la question de la pérennité de la présence américaine au plan militaire tout court en Europe. Là, bien entendu, on entre dans un territoire qui dépend entièrement des élections du 3 novembre aux États-Unis. Si le président Trump est réélu, il va vraiment falloir raisonner en termes de défense européenne. Le risque que les États-Unis cessent d'être un membre à plein titre de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN, et c'est une vraie perspective, hein, c'est une vraie possibilité dans ces cas-là. Et les idées françaises et franco-allemandes sur la défense européenne seront à l'honneur dans des conditions qui seront extrêmement difficiles. À l'inverse, si le président Biden, si le vice-président Biden, pardon, devait être élu président, la situation serait différente. On est pense pas qu'il y ait à ce moment-là de risque quelconque que les États-Unis quittent l'OTAN, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux cas, et la politique de sécurité et de défense américaine vis-à-vis de l'Europe et en Europe dépendra grandement de la perception que les États-Unis auront du rôle que l'Europe joue positivement ou négativement dans le bras de fer qui oppose la Chine et les États-Unis. Et ceci serait vrai sous Biden comme sous Trump. Donc, au-delà de la crise sanitaire, au-delà de la crise économique, nous allons entrer, peut-être pas dans une crise stratégique, parce que si c'est Biden, ça peut se passer de façon raisonnablement civilisée, sans à-coup forcément majeur, mais nous allons entrer aussi dans une nouvelle ère dans le domaine stratégique qui sera dominé par la confrontation sino-américaine. Je ne suis pas sûr que l'Europe y soit aujourd'hui particulièrement préparée, mais il est vrai que les Chinois nous ont donné au cours des derniers mois quelques démonstrations de ce à quoi pourrait ressembler un monde où la Chine pourrait déployer sans entrave ses propres ambitions, ses propres appétits. On l'a vu avec la diplomatie du masque, on le voit avec les ambassadeurs de Chine dans les États européens qui se comportent, pour employer le vocabulaire des Chinois eux-mêmes, en loup combattant, ce qui n'est pas exactement ce que les Européens considèrent comme étant les normes normales de la diplomatie. Autrement dit, là aussi, nous allons entrer dans de nouveaux territoires. L'Europe va vraiment subir ce triple défi, les défis sanitaires d'abord, où on a vu par l'absurde ce qui se passe quand il n'y a pas d'Europe. Ça, c'est une leçon intéressante et je pense que les opinions publiques la retiendront. La deuxième crise, bien sûr, la crise économique. Ça, on ne sait pas du tout dans quel état on en sortira, mais c'est que ça a été dit fort bien par les intervenants précédents. La route est raisonnablement bien tracée. Et puis, il y aura très vite aussi ce troisième chantier qui sera celui de l'européanisation de la défense. C'est très difficile et c'est très compliqué.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Enrico Letta, on sait que l'Italie étant la plus meurtrie, est aussi le pays où l'opinion publique a été véritablement séduite, quand on voit les sondages, par la diplomatie du masque, par les efforts déployés par la Chine à grand renfort d'information et de désinformation, notamment sur les réseaux sociaux, et aussi, toujours dans ces mêmes sondages, une désaffection préoccupante vis-à-vis de l'Union européenne.
Oui, on a vu pendant toute cette crise un va-et-vient d'émotions, de sensibilité, les sondages qui ont fait en sorte que dans le premier mois, les Italiens ont pensé que les Russes et les Chinois nous aidaient davantage par rapport à ce que les Français et les Allemands faisaient, et que la Russie et la Chine étaient mieux que l'Europe. Ça a été vraiment la grande victoire de tous les souverainismes et tous les populismes. En même temps, dans les sondages, les partis populistes étaient en baisse, parce que en fait, les gens, dans une situation comme celle qu'on a vécue, demande au gouvernement et se tourne vers le gouvernement, vers les partis de gouvernement. Mais les choses ont un peu changé les dernières semaines parce que effectivement, on a compris que premièrement, c'est grâce à la Banque Centrale Européenne que le pays aujourd'hui tient sur les marchés financiers. Et ça, c'est une grande différence avec la crise d'il y a 10 ans, quand évidemment les choses étaient totalement différentes et l'Italie avait un spread entre les bonds allemands et i buoni del tesoro du trésor italien, qui était un spread, une différence très très importante, et que naturellement on payait en termes d'instabilité financière. Naturellement, puis il y a eu aussi cette grande annonce du changement français-allemand, allemand surtout, et de la réussite de la France à convaincre l'Allemagne à annoncer cette ligne de réaction sociale sur le plan social et sur le plan de l'économie réelle. Ça, c'était très important parce que, la grande difficulté que les entreprises vivent, que les employés, les employeurs vivent aujourd'hui, nécessite une intervention très forte. Et on a tout de suite compris que la voie nationale que certains partis populistes poussaient était une voie qui était insuffisante. L'idée de dire on va faire tout seul, on va faire avec une émission de bond italien et tout ça, c'était clair que ça ne pouvait pas marcher. Donc tout ça mis ensemble a fait en sorte que dans les derniers jours, les sondages sont en train de rebondir. La France surtout a obtenu de résultats très positifs en termes d'image en Italie, et disons les méchants sont devenus les Hollandais, qui naturellement, à cause de cette attitude, de mon point de vue, franchement incompréhensible de la part du Premier ministre et du ministre des Finances, parce que vous pouvez même tenir des lignes politiques de austérité, de rigueur, comme par exemple Schäuble avait fait dans le passé, mais vous devez toujours mettre ça dans un cadre de relations honnêtes, correctes et de solidarité européenne, alors que ce que Rutte et Hoekstra, les deux protagonistes aujourd'hui de la politique hollandaise, n'ont pas fait. Ils ont même donné l'idée d'une attitude qui était vraiment une attitude qui n'était pas la bonne. L'image des Pays-Bas s'est totalement détériorée aujourd'hui en Italie et j'imagine en Espagne aussi. Donc je vois une situation qui est en mouvement. Je vois aussi un grand risque, c'est le risque de l'effet frustration. C'est-à-dire, on a annoncé, soit au niveau national, le gouvernement a annoncé beaucoup de fonds et beaucoup d'argent pour l'économie réelle. Au niveau européen, on a ces annonces, on parle de 750 milliards, on parle de sommes d'argent énormes. Alors, il faut évidemment éviter l'effet frustration, c'est-à-dire qu'on continue à parler et même à décider des chiffres énormes et ne pas avoir un delivery, une application concrète de tout ça dans l'économie réelle.
Et les citoyens ne voient rien venir.
Donc, précisément, oui, il faut absolument qu'il y ait tout de suite un bridge avec ces annonces et une situation réelle qui a besoin tout de suite d'investissement.
Jean Pisani-Ferry, Enrico Letta faisait allusion au néerlandais. On a l'habitude en Europe de cette fracture, de ce fossé entre le Nord qui moralisateur, travaillant dur vis-à-vis des pays du Sud qui, au soleil, ne serait que paresse et endettement. Mais on a vu aussi une autre fracture entre les pays de l'Est qui craignent que leur fonds structurel ne soit amoindri de façon à payer pour ce plan de relance commun. Et ce, au moment, et l'OCDE vient encore d'insister là-dessus, au moment où les chiffres des économies européennes, en dépit des interventions massives des États dans les différents secteurs de l'économie, ces chiffres sont absolument catastrophiques.
Oui, vous avez raison de poser cette question, parce que on était dans une situation qui était déjà une situation difficile avec certains pays d'Europe centrale et orientale, notamment la Pologne et la Hongrie, sur les questions d'institutions, le fonctionnement des institutions, du respect de l'indépendance de la justice, de droits humains, d'immigration. Il y avait une fracture qui s'était creusée. Là-dessus arrive la crise. Cette crise, elle ne frappe pas du tout les États de la même manière. Le nombre de morts par habitant va de 1 à 100 dans l'Union européenne. Certains pays en ont été totalement préservés. Ils en ont été totalement préservés, d'abord parce que ce sont des pays qui sont moins ouverts du point de vue de la circulation des flux humains. Ensuite, parce qu'ils ont eu la chance de voir venir et donc de pouvoir fermer leurs frontières plus tôt. Le résultat, c'est que
la Slovaquie en particulier, hein, je crois que la Slovaquie
c'est le pays où est en quelque sorte championne d'Europe. Le nombre de morts par habitant, voilà, absolument. Et donc le s'installe à la faveur de cette crise l'idée que ce sont les frontières qui protègent. Et ce n'est pas complètement faux, même si cette protection est en partie évidemment illusoire. On a quand même, tous les pays ont réagi en fermant leurs frontières, en disant ces flux intra-européens, il faut les ralentir, en se fermant de manière interrégionale aussi, hein, puisque nous-mêmes, on a quand même vécu à une période d'isolement des différentes régions françaises avec des interactions en fait extrêmement faibles. Mais ceci, ça a atteint au cœur le mythe fondateur de l'Europe, en tout cas depuis les années 80, qui est le marché ouvert, marché interne ouvert, les quatre libertés, la libre circulation, etc. Et aujourd'hui, ce mythe-là est mis en cause. Avec l'idée que oh non, ce sont les frontières nationales qui protègent. Donc il ne faut pas se tromper. Alors sur l'importance de la mise en cause est très forte. Alors sur les questions budgétaires, les pays d'Europe centrale et orientale ont déjà obtenu beaucoup, puisque dans les esquisses de la Commission, par exemple sur le fonds parmi, disons, les fonds qui sont mis en avant, il y a celui qui va favoriser la transition climatique. Et en gros, on va acheter assez cher le consentement des mineurs de charbon en Pologne. Hein, sur les 30 milliards qui ont été rajoutés, c'est ça. C'est simplement de pouvoir lever l'opposition polonaise à l'objectif de neutralité carbone en 2050. Mais au-delà de ça, il y a des questions plus profondes, et je pense que cette crise oblige aussi l'Union européenne à se redéfinir. C'est-à-dire à se redéfinir au lieu d'être d'abord un espace qui se définit négativement par la levée de tous les entraves à la circulation des biens, des personnes, des capitaux, comme ça a été le cas encore une fois depuis les années 80. Ça doit être une définition positive. À travers les biens publics européens, qu'est-ce qu'on veut faire en commun, qu'est-ce qu'on fait mieux à l'échelle européenne. Et la question de la recherche médicale, de ce point de vue-là, la question de la santé est une question forte. Ça doit être à travers la relation avec le reste du monde, et on rejoint le point que vous discutiez avec François Hesbourg, qui est la manière dont on peut prendre en charge notre souveraineté, que ce soit sur le plan économique ou que ce soit sur le plan géostratégique vis-à-vis d'un certain nombre de pays tiers, et en particulier bien sûr vis-à-vis de la Chine, qui n'a pas manqué de commencer à se constituer des clientèles à l'intérieur de l'Union européenne. Par notre faute, hein, c'est-à-dire quand on n'a pas dit aux Grecs, on ne leur a pas offert de faire des investissements, et que les Chinois ont investi dans le port du Pirée, et ben ils ont acheté une clientèle. La même chose au Portugal. Et la même chose, dans une mesure moindre, en Italie, avec l'adhésion de l'Italie à l'initiative Belt and Road. Alors, je veux dire, cette fois-ci...
Les routes de la soie,
oui, mais la route de la soie, c'est une traduction, disons, un peu métaphorique. Donc ça, c'est un enjeu très proche, très essentiel, sur lequel, pour l'instant, on n'a pas beaucoup progressé. On a affirmé des intentions. On a une ligne là aussi dans le communiqué franco-allemand. Il y a des choses qui sont assez claires sur les volontés de la France et de l'Allemagne, mais on n'a pas, encore une fois, à ce stade, beaucoup avancé. C'est essentiel.
François Hesbourg, vous venez de publier un livre qui traite précisément de cette question, de ce danger, les prédateurs qui pourraient profiter bien évidemment de l'affaiblissement de nos économies. On avait vu le phénomène après la crise financière il y a 10 ans. On voit la France, l'Allemagne, d'autres pays européens rehausser le niveau de contrôle exercé par les autorités nationales sur le niveau des investissements étrangers, sous-entendu chinois, dans plusieurs secteurs. On voit aussi que la Commission prépare un projet pour filtrer davantage les investissements étrangers. Selon vous, ça peut marcher ?
Il faut que ça marche, et je pense qu'il y a de bonnes chances pour que ça marche. Il est tout à fait extraordinaire de constater que nous avons affaire à trois grandes puissances la Chine, la Russie, les États-Unis, par ailleurs très différentes les unes des autres. Les États-Unis sont un allié stratégique, la Chine a des visées économiques et idéologiques, et la Russie est un État révisionniste. Mais chacun de ces trois États regardent l'Europe de la même façon, c'est-à-dire ils aiment tellement l'Europe, pour paraphraser François Mauriac, qu'ils voudraient qu'il y en ait plusieurs. Hein, pour Trump, c'est Europe is a foe, est un ennemi. Pour la Russie, c'est l'Europe de Vladivostok à Lisbonne. Et pour la Chine, c'est effectivement, pour reprendre la formule de Jean-Louis Pisani-Ferry, c'est la constitution systématique de clients tel à travers la promesse d'investissement chinois. Je dis bien la promesse parce que Jean parlait de du port du Pirée pour la deuxième tranche de modernisation. J'ai découvert ça lors de mon dernier voyage en Grèce. C'est la Banque européenne d'investissement qui prête, je crois, 500 millions d'euros à la société chinoise COSCO, qui s'occupe de la modernisation du port. Donc les Chinois qui sont à court de fonds en ce moment, ils refusent de lever la dette, par exemple sur les États africains, dans les circonstances actuelles. C'est nous qui finançons la constitution par la Chine de ces clientèles. Donc ces trois pays nous aiment bien divisés. Et la Chine est parmi ces trois le plus dynamique, celui qui change aussi le plus les règles du jeu, et l'Allemagne en particulier, qui jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, la Chine c'était une espèce de grand Japon avec quelques problèmes des droits de l'homme en plus, mais somme toute parfaitement gérable et un bon partenaire économique. L'Allemagne qui a un excédent commercial vis-à-vis de la Chine, qui est son premier partenaire commercial. Et puis tout d'un coup, les Chinois se sont mis à picorer parmi les PME ultra performantes, hyper pointues du Mittelstand allemand. Et les Allemands se sont rendus compte qu'ils avaient absolument aucun mécanisme de filtrage de la rapacité de ceux qui voudraient racheter des sociétés. On l'a vu d'ailleurs aussi avec les Américains récemment, qui dans le cadre de la crise sanitaire voulaient racheter une société allemande afin d'en obtenir la primeur d'un éventuel vaccin du Covid à la cas échéant d'origine allemande. Donc l'Allemagne a mis en place des mécanismes, la France également. Et maintenant, la plupart des pays de l'Union européenne se sont au moins dotés de mécanismes nationaux. Mais malheureusement, l'Europe est divisée là-dessus encore, parce que on a pendant 5 ou 6 ans laissé les Chinois, constituer leur clientèle en Europe orientale et centrale. Et du coup, on n'a pas pu obtenir la création à Bruxelles, à l'échelle du marché unique, qui aurait été une échelle normale, d'un comité européen de filtrage des investissements technologiques étrangers. On finira par y arriver, d'autant plus qu'effectivement l'ère du temps de la commission géopolitique, comme l'appelle Madame van der Leyen, la commission géopolitique, est en train de monter une série d'initiatives. On le voit avec M. Thierry Breton, on le voit même avec le changement de bord idéologique formidable de Mme Vestager, la papesse de l'ultra-libéralisme dans la politique de compétition, et qui dit que dorénavant, il faut empêcher certaines sociétés européennes clés, des entreprises de souveraineté européenne, être mangées par la Chine. On voit qu'il y a eu un tournant et la crise sanitaire a accéléré ce tournant européen. Donc là-dessus, comme dans le domaine économique et de la dette qu'on a évoqué tout à l'heure, l'Europe est effectivement en train de bouger. Elle bouge toujours avec une certaine lenteur. Hein. Il y a quand même 26 wagons accrochés à ce train. Elle le fait en marchant en crabe, comme on dit, le Krebsgang, pour parler allemand. Mais elle va quand même dans la bonne direction.
Et il y a l'échéance de la 5G, évidemment, avec quelques virements de bord intéressants, et notamment du Royaume-Uni, même s'ils ne sont plus dans l'Union, mais ça fait quand même partie.
Allez-y. L'affaire de la 5G, la 5G, c'est quoi pour les auditeurs? C'est non seulement la suite de la 4G, qui est ce que vous utilisez le plus souvent maintenant sur vos smartphones, mais la 5G, qui est la génération suivante, c'est toute l'économie en ligne, c'est les réseaux qui permettent de faire tourner l'économie en ligne, dont on a vu le caractère absolument indispensable pendant le confinement. Si nos économies ne se sont pas totalement effondrées, c'est quand même grâce à ça. Or, les Chinois poussent très très fort depuis plus d'un an maintenant pour qu'on adopte une solution technologique chinoise. Or, la Chine, c'est léninisme de marché, mais dans léninisme de marché, il y a le mot léninisme. Hein. Ce n'est pas un régime neutre, ce n'est pas une espèce de grand Japon démocratique. Or, la 5G est un élément fondateur, fondamental, pour la souveraineté numérique et économique européenne au cours de la décennie qui vient. Et il se trouve qu'il y a au moins deux grandes sociétés européennes, en l'occurrence Nokia et Ericsson, qui savent faire de la 5G, qui la vendent d'ailleurs un petit peu partout dans le monde. Autrement dit, l'Europe a les moyens technologiques nécessaires, elle a des raisons stratégiques et de souveraineté pour aller dans la direction d'une solution européenne, et avec la crise sanitaire et la leçon de choses qu'elle nous a apportée en matière sur ce qui se passe quand on n'a pas la souveraineté dans les domaines clés, qu'ils soient sanitaires ou qu'ils soient numériques, je serais très surpris que les Chinois puissent obtenir les avantages qu'ils pensaient avoir il y a encore seulement 6 mois. En Europe, les Britanniques ont été étaient les premiers à avoir choisi d'aller avec les Chinois. Ils ont changé d'avis, ils ont tourné kazakh. Et en France, en Allemagne, je parle sous le contrôle de M. Letta en Italie, je crois que les jeux sont actuellement rouverts. Et je serais très surpris, encore une fois, que l'on choisisse de se mettre entre les mains d'une puissance étrangère, d'une superpuissance qui ne partage pas nos valeurs, qui nous considère comme étant un ensemble de pays déclinants, mous, décadents, pour tout dire. Et je serais très surpris qu'on se remette aux Chinois dans ce domaine de souveraineté, qui est encore une fois quelque chose de très majeur et qui va se décider dans les mois qui viennent.
Enrico Letta, revenons avec vous sur ce qu'évoquait Jean Pisani-Ferry, et c'est lié aussi aux propos de François, c'est-à-dire l'attractivité que représente la Chine, les investissements chinois à l'est de l'Europe. Au niveau des Balkans, c'est évident. On a vu en Serbie, la Serbie qui poursuit des négociations d'adhésion interminables avec Bruxelles. On a vu le président serbe embrasser le drapeau chinois à l'arrivée de secours sanitaires il y a plusieurs semaines. Est-ce que cette fracture Est-Ouest ou Est-Sud, pour être plus précise, selon vous, est-ce que cela peut ralentir ou même empêcher les négociations qui sont en cours et qui vont se poursuivre sans doute au-delà du prochain Conseil des chefs d'État et de gouvernement jeudi et vendredi?
Je pense que cet aspect géopolitique, géostratégique, de caractère général, joue un rôle très important dans la réponse européenne à la crise, parce qu'il est évident que cette réponse, ça a été dit auparavant, est une réponse qui peut chercher de récupérer les fautes d'une décennie entière, dans laquelle, si je pense à mon pays a eu l'impression, soit dans la crise financière, soit surtout dans la crise de l'accueil des migrants en 14-15, d'être laissé par le reste d'Europe tout seul. Et évidemment, ça a fait grandir une tendance qui a été interceptée par les partis anti-européens. Et donc l'Italie a eu un gouvernement en 18-19 qui était un gouvernement qui cherchait des alternatives à l'Europe. Et ce qui a été fait avec la Chine, je partage totalement ce qui a été dit auparavant, est exactement parce qu'il y avait cette tendance à dire les Européens nous laissent tomber toujours quand on a besoin, il faut chercher des alternatives. Et donc la Russie, et donc la Chine, et donc Trump, ça c'était un peu la ligne sur laquelle surtout la Lega de Salvini a joué, et un peu le 5 étoiles. Puis il y a eu un revirement important il y a un an, le changement de gouvernement et le changement de ligne aussi du 5 étoiles. Donc aujourd'hui on est dans toute une autre perspective. Le gouvernement italien a choisi l'alliance avec la France et l'Espagne, et cette alliance à l'intérieur de l'Europe est en train de donner des résultats. Et surtout, je pense que ce que l'Allemagne a fait et ce que naturellement la France est en train de faire avec l'Allemagne en termes de leadership européenne pour remettre l'Italie au cœur des choix européens, pour donner aux Italiens l'impression, et non seulement l'impression, mais les faits, qui puissent convaincre les gens que c'est l'Europe le destin commun. Et évidemment, tout ça, ça c'est ce jeu dans les prochaines semaines, mois, voire mois, parce que, évidemment, la possibilité de sortir de cette crise avec une voix européenne est aussi importante pour donner un ancrage européen pour le futur de l'Italie. Je crains beaucoup une dérive britannique de l'Italie. Les sondages nous disent aujourd'hui qu'il y a une large partie de la population italienne, pas encore majoritaire, mais qui se méfie de l'Europe et qui donc est capable de aller derrière des leaders populistes qui cherchent, qui proposent des alternatives, même s'ils ne sont pas crédibles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec cette réponse européenne à la crise, je pense qu'aussi l'ancrage de l'Italie et l'Europe est en jeu. Et j'espère naturellement que ce qui a été fait, ce qui a été annoncé, soit la bonne voie, que cette bonne voie avec les solutions économiques emmène aussi cet ancrage définitif sur lequel naturellement je pense que c'est le futur de l'Italie.
Daniela Schwarzer, on arrive à la conclusion provisoire de cette discussion. Est-ce que cela veut dire que pour obtenir un accord, il faut toujours l'unanimité au sein des 27, pour obtenir donc ce rebond qui semble véritablement nécessaire, ne serait-ce que pour que nos économies redémarrent à terme? Est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser la Pologne et la Hongrie, en particulier, continuer à enfreindre des principes qui sont tout aussi importants que ceux de la solidarité, de la libre circulation, etc., au sein de l'Europe, c'est-à-dire l'état de droit?
À mon avis, on est dans une situation où on a une chance vraiment pour renforcer les mécanismes dont dispose l'Union européenne pour la démocratie et l'état de droit. Parce que nous sommes en train de mettre en œuvre un outil budgétaire qu'on n'a jamais eu au sein de l'Union européenne. Et c'est totalement légitime, à mon avis, de définir une certaine conditionnalité par rapport à la dépense de ces moyens. Et la démocratie, l'état de droit, les droits fondamentaux, ce sont des principes de l'Union européenne qui sont dans l'article 2 de notre traité, que tous les États membres ont souscrit quand ils sont rentrés dans l'Union européenne. Et donc pour moi, c'est vraiment un moment crucial où les gouvernements peuvent rendre les mécanismes qui sont déjà là plus forts pour assurer que les États membres respectent ces valeurs. Et donc, pour moi, c'est une question clé. Est-ce que, oui ou non, les gouvernements vont réussir à mettre cette conditionnalité dans le cadre budgétaire de l'Union européenne et notamment dans le fonds de reconstruction économique ou non? Et évidemment, il y a au moins deux États, peut-être plus, qui vont être contre, notamment l'Hongrie et la Pologne. Mais à mon avis, on a un levier politique extraordinaire dans cette situation de dire ça, c'est une condition sans laquelle la France et l'Allemagne ne soutiennent pas la mise en œuvre de ces mécanismes budgétaires. Et ça va être une des priorités du gouvernement allemand quand l'Allemagne prend la présidence de l'Union européenne à partir du 1er juillet de cette année. Et j'espère sincèrement que la France et l'Allemagne vont prendre ça en main ensemble, parce que si on n'arrive pas à renforcer ces principes fondateurs de l'Union européenne, maintenant, je pense on aura beaucoup de mal à y revenir plus tard.
Même si on peut craindre l'inverse, c'est-à-dire que pour arracher l'accord de ces deux pays, Hongrie-Pologne, eh bien, on se fasse plus accommodant.
C'est une crainte que j'ai aussi, Daniela. Mais c'est pour ça que je souligne ce point. C'est d'une importance politique extraordinaire. Évidemment, il y aura de la critique, il y aura peut-être un blocage temporaire. Mais si l'Union européenne n'arrive pas à renforcer ses principes fondateurs de toute l'intégration européenne, aujourd'hui, ce sera beaucoup plus difficile, voire impossible plus tard.
Un mot encore, Daniela. L'Allemagne prend donc la présidence tournante du Conseil le 1er juillet. Et Madame Merkel a déjà dit aux Chinois, à Xi Jinping, qu'il n'était pas question de tenir un sommet sino-européen à Leipzig, comme c'était prévu en septembre. C'est aussi une prise de conscience à Berlin sinon du danger, en tout cas de la menace chinoise au moment où les États-Unis de Donald Trump sont en plein retrait.
L'explication officielle est évidemment que pour des raisons de corona, ce n'est pas possible de tenir ce sommet. Mais évidemment, il y a un raisonnement géopolitique derrière qui est très important. Donc ce qu'il fallait éviter, c'est évidemment un sommet qui est un succès pour les Chinois, mais qui en termes de substance ne porte rien du point de vue européen. Et la préparation de ce sommet a été aurait été très compliquée, notamment à cause de la situation corona, parce que d'abord, il aurait fallu mettre tous les 27 États sur la même ligne, et après bien préparer le sommet avec les Chinois. Et les sujets...
Bon, donc pas de sommet avec les Chinois, et donc c'est voilà, on peut le dire, même si c'est
pour le
douloureux
moment,
à l'exprimer. Là, le coronavirus rend service. Eh bien, merci à vous quatre, merci à vous, bien sûr, Daniela Schwarzer, directrice de l'Institut allemand de politique étrangère, et je recommande plusieurs papiers que vous publiez sur le site de cet institut, et notamment des papiers qui analysent les priorités de cette présidence allemande. Merci Enrico Letta. Je rappelle l'ouvrage que vous avez co-signé avec Sébastien Maillard, « Faire l'Europe dans un monde de brutes ». Le titre était vraiment bien trouvé chez Fayard en 2017. François Hesbourg, vous venez de publier chez Odile Jacob « Le temps des prédateurs », la Chine, les États-Unis, la Russie et nous. Jean Pisani-Ferry, quatrième édition, bravo, aux éditions de Book de « Politique économique ». Un ouvrage donc que tous les étudiants et tous ceux qui s'intéressent à l'économie, évidemment, ont pour livre de chevet. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, Audrey Gélil à la technique, Hugo Borsier m'a aidé comme chaque semaine à préparer cette émission, et comme chaque samedi, voici Hervé Gardette. Très bon week-end à tous, à samedi prochain.